Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Mathilde Deleuil de l'équipe Podcasting.
Aujourd'hui, c'est à un reportage de Média Basque que nous nous intéressons. Son titre, Ayété, un souvenir qui a marqué les esprits. Ce reportage vidéo, vous le co-signez avec une autre journaliste, Yurebi Degaïne. Bonjour Anaïs Aguirre-Lagaraï.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour Média Basque et Caseta, un média en langue basque, et vous avez donc co-réalisé ce reportage qui est une série d'entretiens avec des personnalités politiques, syndicalistes du Pays Basque Nord, donc du Pays Basque français. Tous reviennent sur la conférence d'Ayété qui a eu lieu il y a 10 ans, le 17 octobre 2011. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient les enjeux de cette conférence et dans quel contexte elle s'inscrivait ?
Oui, donc cette conférence, elle s'inscrit dans un contexte où l'organisation armée État avait à plusieurs reprises tenté des négociations avec les États français et espagnols depuis peut-être une décennie après sa création. Il y a eu comme ça plusieurs phases des tentatives de négociations, mais qui n'ont jamais vraiment abouti. Là, Ayété, c'est une réunion qui donne un écho international en fait à ce conflit, parce qu'il y a tout un tas de personnes du monde entier, de pays où il y a eu des transitions, des processus de paix et de justice transitionnelle qui ont été mis en place. Je pense à l'Irlande ou à l'Afrique du Sud. Donc Ayété, en 2011, c'est une conférence qui réunit des personnalités internationales et qui donne leurs conseils, ou en tout cas qui s'investissent. Ayété, c'est ça, c'est... Ben, à partir de maintenant, on se lance dans un processus de paix et on fait pression sur les États français et espagnols pour qu'ils s'investissent dans ce processus. Et le fait qu'il y ait des personnes, des personnalités internationales a probablement joué et mis un peu de pression aussi aux États, même si ça n'a pas, Ayété n'a pas tout réglé par la suite. Hein, mais voilà. Et à la fin de cette conférence, une feuille de route a été mise en place. Voilà, mais j'en parlerai, je pense, après.
Oui, concrètement, qu'est-ce qui a été décidé sur le moment pendant cette conférence ?
Donc, à l'issue de la conférence d'Ayété, il y a une déclaration qui est faite et une feuille de route qui est présentée en 5 points. Je pense que ça vaut le coup de présenter rapidement les 5 points, parce que c'est important après pour la suite. Donc le premier point, c'était de demander à l'organisation armée État de déclarer publiquement l'arrêt définitif de toute action armée et à solliciter le dialogue avec les gouvernements d'Espagne et de France pour aborder exclusivement les conséquences du conflit. Ensuite, en deuxième point, c'est que si l'organisation faisait une telle déclaration, le comité encourageait vivement les gouvernements d'Espagne et de France à l'accueillir et à consentir à l'ouverture d'un dialogue qui traite exclusivement des conséquences du conflit. Ensuite, le comité d'experts conseille que des mesures conséquentes soient prises pour promouvoir la réconciliation, apporter la reconnaissance, la compensation et l'assistance à toutes les victimes, reconnaître le tort qui a été causé et tenter de soigner les plaies au niveau des individus comme de la société. Ensuite, en quatrième point, elle estime que dans la résolution de conflits, enfin, elle se base sur son expérience, ils disent qu'il y a souvent d'autres sujets qui, s'ils sont abordés, peuvent aider à atteindre une paix durable. Donc ils disent « Nous suggérons que les représentants politiques et acteurs non-violents se rencontrent pour discuter des questions politiques et en consultation avec la population de tout autre sujet qui pourrait contribuer à créer une nouvelle ère pacifique. » Et ils disent « De notre expérience, les observateurs tiers ou les médiateurs facilitent un tel dialogue. Oui. » Et ce dialogue pourrait être accompagné par des médiateurs internationaux. Et enfin, ils se disent disposés à constituer un comité pour accompagner la mise en œuvre de ces recommandations. Donc voilà, c'est ça qui sort de la déclaration d'Ayété. qui aura par la suite des répercussions.
Le 20 octobre 2011, donc 3 jours après la conférence, l'ETA annonce l'arrêt définitif de son activité armée. C'est quelque chose qui ne se serait pas fait autrement, vous pensez? C'est une décision directement liée à AIET?
Alors oui, bien sûr, c'est vraiment lié. Hein. En 2011, de toute façon, l'organisation État a pris la décision d'un changement total de stratégie. Alors on l'a su plus tard, des discussions avaient eu lieu entre TA et le gouvernement de Madrid pour créer les bases de discussion à venir sur les conséquences du conflit armé. Mais donc oui, la déclaration d'AIET et la déclaration de l'arrêt définitif d'État sont intimement liées. Madrid, de son côté, n'a pas rempli ses engagements. Mais voilà. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one. And I believe it could be, someday it's going to come. Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Yeah, I've been smiling lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be, something good has begun. Peace train sound. Comment avez-vous choisi vos 6 interlocuteurs pour ce reportage ? On a choisi des interlocuteurs, des personnes qui étaient présentes à la conférence AIET en 2011 et qui sont des personnalités politiques et, pour l'une d'entre elles, syndicales. Alors on a des députés, sénateurs, la porte-parole de Euskal Herria Bai. Voilà, c'est des personnes qui représentent une diversité de tendances politiques et qui étaient toutes invitées à AIET en 2011. Donc, là aussi, c'est quelque chose d'assez... Je pense que c'était nouveau à l'époque, c'est qu'en 2011, ont été réunis à Donostia des personnes du Pays Basque Nord, donc côté français, et des personnes du Pays Basque Sud. C'était une expérience, en tout cas particulière, de faire partie de... et d'être impliqué comme ça dans la résolution du conflit.
Et qu'est-ce qu'ils en retiennent ? Est-ce qu'ils ont eu l'impression de vivre un moment clé, un moment de bascule ? Est-ce qu'ils ont eu l'impression d'avoir un rôle important à jouer ?
Certains ont été surpris de se trouver là, ils se posaient des questions. Bon, je pense par exemple au sénateur Les Républicains, Max Brisson, qui reconnaît, voilà, il avoue, mais je me suis demandé pourquoi on m'a invité, pourquoi j'étais là. C'est-à-dire que dans la partie française du Pays Basque, le conflit avait été moins sanglant, donc il se disait, mais pourquoi nous, on doit faire partie de ça. Mais je pense que voilà, ça a fait justement son effet, hein, ça a eu son effet à AIET. Et donc, comme dit Anita Lopépé, porte-parole d'Euskal Herria Bai, le but aussi, c'était qu'à travers la présence de personnalités du Pays Basque Nord, l'État français se sente aussi en partie responsable et acteur de l'issue du conflit. Donc voilà, tous ont eu ce sentiment d'une journée historique. En plus, il faut dire que c'était au palais d'AIET, avec toute sa symbolique. C'était une journée très... solennel, donc il y avait tout un protocole mis en place qui pouvait être un peu impressionnant, donc ça donnait le sentiment de... Et puis il y avait la présence de ces personnalités internationales, donc oui, je pense qu'ils ont eu un souvenir marquant.
Vous évoquiez la porte-parole du mouvement de gauche autonomiste à Bertsalé et Euskal Herria Bai, Anita Lopépé. Elle parle de verre à moitié plein ou à moitié vide quand elle fait le bilan d'AIET. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ?
Alors, parce qu'ils se sont passés 10 ans depuis la conférence AIET, et pendant 10 ans, on va dire de 2011 à fin 2016, il s'est rien passé, en fait. Donc, alors que la feuille de route d'AIET disait clairement, voilà, il faut que les États participent au processus de paix. Donc, il y a eu à la fois une grande avancée qui est celle de poser les bases d'un processus de résolution des conséquences du conflit. Ces 10 dernières années, il y a eu des avancées, des rapprochements de prisonniers. Il y a eu évidemment aussi le désarmement de l'ETA, la dissolution, etc. Mais Anita Lopépé, elle dit ça parce que les États n'ont pas mis beaucoup du leur, quoi. Et donc, ça a été quand même un processus qui, selon elle, s'est fait de manière essentiellement unilatérale, donc de la part de la société civile. Et puis, il y a encore beaucoup... tout n'est pas réglé, il reste encore des problèmes à régler. Donc voilà, je pense que c'est dans ce sens qu'elle dit que c'est un verre à moitié vide, parce que tout ce que le mouvement à Bersalé aurait voulu faire n'a pas pu se faire. Ça, d'autres intervenants le disent aussi. Ayété, c'était à la fois quelque chose, une accélération donc, dans le processus, et en même temps quelque chose de très... Enfin, le bilan des 10 ans, c'est une lenteur. Voilà, une lenteur dans l'action des gouvernements, essentiellement.
Quel a été l'effet Ayété sur les partis politiques au Pays Basque français ? Est-ce qu'ils ont commencé à œuvrer ensemble ?
Oui, Ayété, ça a créé un certain consensus quand même entre des tendances politiques très diverses. Ça a probablement un peu dédramatisé, enfin, je sais pas si c'est le mot, mais disons que c'est peut-être comme si avant c'était un tabou un peu de parler du conflit basque. Là, ça a mis tout le monde un peu face à ses responsabilités et en même temps... Il y a eu un consensus qui s'est fait autour du désir de paix. Et à partir de là, oui, on peut dire que à partir d'Ayété, peut-être qu'à chaque manifestation ou événement important qui veut se mobiliser pour la question des prisonniers basques ou pour la question du processus de paix, toutes les tendances politiques se sont retrouvées main dans la main quoi, dans cette thématique-là. Et oui, c'était quelque chose d'assez inédit.
Max Brisson, le sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques, parle d'un consensus que la gauche autonomiste ne doit pas instrumentaliser. Jean-Jacques Lasserre, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, évoque, lui, des formations politiques qui se sont emparées du sujet, mais qui, je cite, « n'ont pas le monopole du désir de paix ». Est-ce que vous pouvez développer ?
On peut comprendre, on peut lire entre les lignes ce qu'ils ont dit. C'est bon, déjà, de toute façon, je crois que Max Brisson les cite expressément. Il parle des Abertzalés, voilà. Et donc, j'imagine qu'ils se disent que tout ce processus de la fin du conflit armé, etc., ils ont l'impression que la gauche Abertzalé se l'approprie. Alors que d'autres tendances politiques aussi ont participé. Je pense qu'ils ont, de leur point de vue, depuis leur parti politique, leur tendance politique, ils craignent peut-être que cette thématique du processus de paix devienne un argument de campagne, ou je sais pas, bon. Mais voilà.
Michel Larralde, l'ancien secrétaire du syndicat CFDT au Pays Basque, explique qu'à l'époque d'Ayété, beaucoup des adhérents de la CFDT ne connaissaient pas bien le conflit basque. Comment ça s'explique ?
Du côté français, on n'a pas eu le même vécu de ce conflit qu'au Pays Basque Sud. Voilà, malgré tout, y a une frontière administrative qui nous sépare. Et à part les personnes qui étaient directement concernées par leur famille ou par ce conflit, je crois qu'il n'y avait pas... Je ne dirais pas que c'était tabou, mais c'était pas forcément bien expliqué. Ou en tout cas, pendant la période où la lutte armée se poursuivait... La seule image peut-être qui était donnée de ce conflit, c'était le côté sanglant, le côté... Voilà. Je pense qu'Ayété a permis aussi de rappeler les fondements historiques de ce conflit, d'où ça vient, pourquoi, de rappeler qu'il y a eu déjà des tentatives de négociation, que c'est pas une fatalité, voilà. Whoever told you love is simple is a liar. Whoever told you peace is easy, don't admire. I wanna hold you, but I can't control the fire. The fire is burning, ain't a putting out that light. Yeah, desire turns to desire, turns into a quiet old man full of white hair. Thought we had it all planned out in a hijack, but even then everything was a fight. Yeah, peas and carrots, what we inherit. I see the merit in the squeeze of parents. No need to sugarcoat it. I see the need for being married, but who would condone it when your dreams are being buried and it seems you've been disowned? I say hold on to the little piece of.
Je voudrais qu'on revienne sur une phrase de la sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, Frédérique Espagnac. Elle explique que cette conférence et le travail commun entre partis ensuite ont permis d'être entendus à Paris. C'était l'un des enjeux. Est-ce qu'il y a un manque de compréhension, d'implication au sommet de l'État ?
Très longtemps, l'État français a suivi l'État espagnol dans la gestion de ce conflit. On va dire qu'à partir de 2017, il y a eu un changement de positionnement de la part de l'État français où, au lieu de ne faire que suivre la méthode de l'État espagnol, à un moment donné, s'est dit « bon, on va faire selon notre volonté ou notre point de vue ». Et oui, je pense que ce consensus politique qui s'est formé, c'était quand même assez surprenant. Enfin, c'était quand même une chose un peu inédite. Et je pense qu'à partir du moment où il y a un consensus, enfin, l'État français ne peut plus ignorer. Ou, voilà. Ça a permis des choses. Maintenant, l'État français n'est pas encore en situation de comprendre complètement tout. Mais on peut dire qu'il y a eu des avancées. Petites, mais il y en a eu. Oui.
Quels sont aujourd'hui les enjeux? Quel chemin reste à faire?
Alors, les enjeux principaux, il reste la question des prisonniers. Hein. Tous ne sont pas rentrés. Ceux qui sont rentrés, la plupart, en fait, c'est parce que leur peine était terminée. Alors, il y en a qui sont très âgés, malades, qui sont en prison depuis plus de 30 ans. Donc ça, c'est une priorité, en fait, de pouvoir faire en sorte que ces prisonniers-là ne soient plus en prison et rentrent chez eux. Il y a la question des rapprochements. Donc là-dessus, il y a eu beaucoup d'avancées, y compris dans l'État espagnol, pour rapprocher les prisonniers au plus près de leur famille, parce que pendant longtemps, ils ont été sciemment envoyés très très loin, avec toutes les conséquences que ça implique pour les familles, d'aller faire le trajet en voiture pour aller les voir, etc. Puis après, il reste la question de l'origine même du conflit, qui est politique. Donc il y a la question de... Et là-dessus, il y a eu des évolutions sur l'institutionnalisation du territoire Pays Basque. Donc maintenant, on est une communauté d'agglomération Pays Basque, mais je pense que pour les Abertzalés, ce projet-là doit être encore... il faut aller plus loin dans l'autonomie, en tout cas, une autonomie plus grande au niveau des décisions politiques. Voilà, je pense que ça aussi... alors là, on sort du... Enfin, on sort ou pas, justement, mais du processus de paix. Et puis, bien sûr, il y a aussi le récit, la mémoire, tout le travail de mémoire. Ça a été fait en partie, reconnaître les souffrances des victimes, des deux côtés. Et maintenant, j'ai envie de dire, place au récit, à la mémoire. Il faut que ce soit équilibré, il ne faut pas qu'il n'y ait qu'une version des faits, mais plusieurs. Et... Là-dessus, peut-être, je vais dire un mot sur un long métrage qui va sortir en avant-première au mois de novembre à Bayonne, et ensuite à partir de janvier dans le reste du territoire, qui est réalisé par Thomas Lacoste. Donc, il a déjà fait un documentaire de 52 minutes qui était diffusé à la télé. Et donc, ce film va s'appeler L'hypothèse démocratique, une histoire basque. Et donc, lui, depuis fin 2016, il a suivi un petit peu toutes les démarches qui ont été entreprises pour le processus de paix. Donc, je pense que ce sera un document très intéressant à regarder, un film qui fera date, je pense, sur les racines du conflit, l'explication. Ce sera très pédagogique, je pense, et ce sera vraiment utile pour comprendre tout ça, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe encore. Je recommande vraiment de voir ce film dès qu'il sera sorti.
Merci Anaïs Aguirre-Lagaraï d'avoir été avec nous. Votre reportage Ayété, un souvenir qui a marqué les esprits, est à retrouver sur le site de Média Basque.
Merci Mathilde Leleuil, c'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.